RFI 9h à Paris, 10h à Kiev.
RFI Matin.
À peine décrété, déjà terminé, la trêve entre la Russie et l'Ukraine a pris fin cette nuit, Martin Guez.
Ah oui, l'un des très rares moments de répit dans cette guerre à grande échelle n'en était pas vraiment un. Volodymyr Zelensky qui fait état de plus de 2000 violations. Moscou relève plusieurs attaques ukrainiennes. Pas vraiment de quoi inciter à l'optimisme pour un futur arrêt des combats. Nous serons ensuite dans l'océan Indien pour le début de la tournée d'Emmanuel Macron qui coche ce matin la case Mayotte sur son plan de vol. Le président français qui vient d'atterrir. Valérie Gasse suit cette tournée pour RFI. À Washington, place aux réunions de printemps de la FMI et de la Banque mondiale dans un contexte morose. L'emploi des jeunes préoccupe particulièrement les deux principales institutions financières mondiales. Enfin, nous serons au Ghana. Un rapport alarmant d'Amnesty International pointe les conditions de vie terribles des personnes accusées de sorcellerie. Et en Côte d'Ivoire, où le roi du reggae, Alpha Blondy, sort de sa boîte un 20e album à 72 ans, qui fait la part belle à la jeunesse et à son dernier fils, surnommé le Prince Bleu, qui chantonne avec son papa. À écouter en fin de journal.
La Russie reprend ce matin ses frappes aériennes en Ukraine.
Des frappes dans l'est et dans le sud du pays, selon des responsables régionaux ukrainiens qui n'ont pas fait de victimes, mais qui font en tout cas venir mettre fin à cette drôle de trêve, Pascal, de 30 heures décrétée par la Russie qui n'a jamais vraiment été respectée. Les deux pays qui s'accusent mutuellement de violations. Volodymyr Zelensky estime que ce cessez-le-feu a été bafoué plus de 2000 fois par l'armée russe. Une trêve qui aura toutefois permis des échanges de prisonniers, 246 de chaque côté et 31 soldats ukrainiens blessés, ce qui fait 277 Ukrainiens qui vont donc retrouver leurs familles, des familles soulagées de les voir rentrer, même si beaucoup restent dans l'attente. À Kiev, Emmanuel Chaz assistait à l'un des rassemblements hebdomadaires en soutien aux soldats. Reportage.
En ce dimanche pascal, comme toutes les semaines, des dizaines de personnes se sont rassemblées au cœur de Kiev. Elles réclament le retour des milliers de soldats ukrainiens toujours détenus en Russie. Anton est vétéran, il a combattu jusqu'au mois dernier. Pour lui, participer à ces rassemblements est nécessaire pour rappeler aux civils le sort des Ukrainiens dans les prisons russes.
Nous avons beaucoup de prisonniers de guerre et des civils qui sont en captivité et ils le sont dans de très mauvaises conditions, sans respect de leurs droits humains les plus élémentaires. Et j'ai personnellement beaucoup d'amis militaires qui ont disparu. C'est pourquoi je viens ici, parce que je peux avoir un certain impact.
Lisa, une habitante de Kiev, est là en guise de solidarité envers les familles qui ont un proche en captivité.
C'est important de soutenir les familles de militaires. Nous sommes une grande famille, donc je considère qu'il est de notre devoir de venir soutenir chaque famille qui a une personne disparue ou un proche qui est en prison.
Depuis le début des échanges de prisonniers avec la Russie, grâce à la médiation des Émirats Arabes Unis, plus de 4500 Ukrainiens, soldats et civils ont été libérés. Mais pour des milliers d'autres familles, l'attente continue malgré les demandes répétées de Kiev pour un échange de l'ensemble des prisonniers de chaque côté. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et alors que les négociations de paix sont à l'arrêt et que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dit il y a quelques jours que les États-Unis avaient d'autres priorités que la guerre en Ukraine, le président Donald Trump a lui affiché son optimisme dans un message succinct sur son réseau social Truth Social. Il a dit espérer un accord dans la semaine entre la Russie et l'Ukraine.
Ça y est, la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien a débuté.
Une tournée de 5 jours au pas de course qui le mènera à La Réunion, à Madagascar et à Maurice. Mais d'abord, le voilà à Mayotte pour son premier arrêt tournée que suit Valérie Gasse pour RFI. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Emmanuel Macron qui s'était rendu dans l'archipel en décembre après le passage du cyclone Chido qui avait fait 40 morts et des milliards d'euros de dégâts. Le président français avait promis de revenir, promesse tenue.
Oui, chose promise, chose due. Emmanuel Macron est de retour à Mayotte, lui qui s'était rendu sur place immédiatement quand le cyclone Chido avait ravagé l'archipel pour constater par lui-même l'ampleur des dégâts. Plus d'électricité, plus d'eau, plus d'école, la population exsangue, une situation dramatique. Le président de la République avait promis aux Mahorais de reconstruire vite en appliquant la même méthode que pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des promesses qui n'avaient pas calmé la colère exprimée par certains habitants qui avaient pris à partie Emmanuel Macron, lui reprochant d'avoir abandonné Mayotte.
Et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est donc de montrer que les chantiers ont avancé.
Oui, c'est vrai, tout au long de la journée, Emmanuel Macron va s'employer à convaincre avec les habitants dès son arrivée, avec les élus au conseil départemental. Depuis décembre, plusieurs visites ministérielles ont eu lieu. Une loi d'urgence pour Mayotte a été adoptée et la loi de refondation promise doit être présentée ce soir lors d'un conseil des ministres en visio qu'Emmanuel Macron présidera de son avion. La visite d'Emmanuel Macron vise à montrer qu'il suit le dossier et engager la phase de reconstruction, mais aussi à avancer sur les questions très sensibles de sécurité et d'immigration illégale en provenance des Comores qui sont au cœur des préoccupations des Mahorais.
Mais la visite d'Emmanuel Macron ne se limite pas à Mayotte.
Non, en effet, le président de la République en profite bien sûr pour aller à La Réunion qui vient d'être touchée par le cyclone Garance et fait face à une grave épidémie de chikungunya. Il doit se rendre ensuite à Madagascar où aucun président français n'a effectué une visite bilatérale depuis 2005 pour assister notamment au sommet de la Commission de l'Océan Indien avec l'espoir d'ailleurs d'y faire entrer Mayotte malgré l'opposition des Comores. Le président abordera avec son homologue malgache la question des îles Éparses, territoire français stratégique dans le canal du Mozambique revendiqué par Madagascar, et celle de la restitution du crâne du roi Toéra à laquelle la France est prête, un enjeu mémoriel. Emmanuel Macron terminera par l'île Maurice où il sera question de souveraineté alimentaire et de préservation des océans. L'océan Indien est une zone stratégique pour la France. Avec cette tournée, Emmanuel Macron veut développer les coopérations avec les États de la région, faire le lien entre les Outre-mer et l'international et renforcer la présence française dans une zone où la Russie et la Chine cherchent à augmenter leur influence.
Merci Valérie Gasse, on vous retrouve tout au long de la semaine durant cette tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien.
Au Proche-Orient, l'armée israélienne reconnaît une erreur.
Et plusieurs fautes professionnelles après cette fusillade qui a fait 15 morts, 15 secouristes palestiniens du Croissant Rouge tués fin mars à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Une enquête interne israélienne a conclu que les soldats n'avaient pas ouvert le feu à l'aveugle. L'armée qui dit toutefois regretter les victimes collatérales et qui a annoncé le limogeage d'un officier. Un rapport dénoncé comme mensonger et truffé d'erreurs par le Croissant Rouge. La défense civile gazaoui dénonce celle des exécutions sommaires et accuse Israël de chercher à contourner le droit international. Cette tuerie qui avait provoqué une vague d'indignation partout dans le monde. Le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui avait évoqué un possible crime de guerre.
RFI.
Aux États-Unis, réunion de printemps pour le FMI et pour la Banque mondiale.
Les deux plus grandes institutions financières internationales qui tiennent leur traditionnelle réunion annuelle à Washington dans un contexte qui n'incite pas vraiment à l'optimisme. Les prévisions de croissance sont en baisse. La question du financement américain de ces institutions alimente beaucoup d'inquiétudes. Un climat morose donc qui n'est pas propice à rassurer les millions de jeunes qui vont entrer prochainement sur le marché de l'emploi. L'emploi des jeunes qui sera au cœur des discussions, Charlotte Cossé.
40% de la population du continent africain a moins de 15 ans. Des jeunes qui vont avoir besoin de débouchés, insiste Ajay Banga, le président de la Banque mondiale.
Au cours de la prochaine décennie, 1,2 milliard de jeunes entreront sur le marché de l'emploi dans les pays en développement. Actuellement, on prévoit que ces pays créeront 420 millions d'emplois. Ce fossé n'est pas seulement une question économique. Je pense qu'il s'agit là d'un risque mondial. Car sans opportunité, les menaces liées à la fragilité, aux migrations illégales et à l'instabilité se renforceront.
La Banque mondiale a par exemple mis en place le laboratoire de l'investissement privé, aujourd'hui composé pour l'essentiel de banques et d'institutions financières. Ce groupe va être élargi.
Nous allons élargir sa composition pour y inclure les secteurs qui, selon nous, sont les plus importants pour la création d'emplois. Il s'agit de l'énergie et de ses infrastructures, de l'agroalimentaire, de la santé, du tourisme et de l'industrie manufacturière. Nous passons des essais à la mise en œuvre. Ce travail est intégré dans l'ensemble de nos activités. Nous le lions directement à notre agenda pour l'emploi. C'est au cœur de notre stratégie.
Ces derniers mois ont été marqués par la baisse de l'aide publique au développement et la coupe brutale de l'USAID, une évolution qui incite d'autant plus les institutions à se tourner vers le secteur privé et la philanthropie.
Explication signée Charlotte Cossé du service économie de RFI.
On évoquait la fin de l'USAID, les États-Unis continuent leur coupe budgétaire.
Et comme le révèle le New York Times, cette fois-ci c'est le département d'État américain qui s'apprête à considérablement réduire la voilure, notamment pour la présence des États-Unis sur le continent africain. Des informations immédiatement démenties par Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Mais une réorganisation structurelle totale se préparait bien en coulisses, Karine Auton.
Premier point du projet de restructuration du département d'État, selon le New York Times, la suppression des bureaux chargés du changement climatique, de la démocratie et des droits fondamentaux, des sujets que l'administration Trump attaque régulièrement. Les coupes budgétaires vont entraîner aussi des fermetures de bureaux à l'étranger. L'ambassade américaine à Ottawa serait considérablement réduite, et ce alors que Donald Trump continue de nourrir des visées expansionnistes envers le Canada, qu'il qualifie de 51e État américain. Mais là où les États-Unis vont réduire le plus leur présence diplomatique, c'est en Afrique. Le continent n'apparaît plus dans les quatre zones du monde qui comptent pour Washington, et l'actuel bureau pour l'Afrique serait ainsi supprimé et remplacé par un bureau de l'envoyé spécial pour les affaires africaines qui dépendrait du Conseil national de sécurité interne de la Maison-Blanche et non du département d'État. Le projet indique aussi que toutes les ambassades et tous les consulats non essentiels en Afrique subsaharienne seront fermés. Le projet prévoit la mise en place de ces changements pour le 1er octobre prochain. Karine Auton, New York, RFI.
Direction le Ghana à présent, le Ghana qui se livre à une véritable chasse aux sorcières.
Et celle malheureusement à prendre au sens propre, comme le montre un rapport alarmant d'Amnesty International. Un document qui se base sur 2 ans d'enquête au sein de 4 camps dans le nord et dans le nord-est du pays. Car au Ghana, les accusations de sorcellerie ont conduit plusieurs centaines de personnes à l'exil, voire à la mort. Depuis Accra, correspondance de Victor Cariou.
Plus de 500 personnes exilées de leur village résignées à vivre dans des camps vétustes. Cette réalité décrite par le rapport, Samadou Saïbou la constate tous les jours. Il travaille pour l'ONG Songtaba qui vient en aide aux victimes d'accusations de sorcellerie marquées à vie.
Some of them had livelihoods before they were accused. Certaines d'entre elles avaient un travail avant d'être accusées. Leur emploi a été perdu et cela les a affectées psychologiquement. Là-bas, vous voyez également des femmes qui n'ont plus de doigts parce qu'on leur a brûlé.
S'il n'existe aucune statistique officielle, le rapport pointe néanmoins 7 décès liés à des lynchages. Principale cible des accusations, les femmes qui sortent de la norme, comme l'explique Michel Eken, chercheuse senior à Amnesty International.
Ce sont souvent des femmes de plus de 50 ans vulnérables dans la communauté, ou des femmes qui réussissent bien dans la vie, qui ont leur propre entreprise. Dès qu'il y a un incident dans la communauté, ce sont les premières à être accusées de sorcellerie.
Autre point, l'incapacité pour les victimes de recourir à la justice ou de pouvoir retourner chez elles en toute sécurité. La preuve, selon la chercheuse, d'une défaillance de l'État ghanéen sur le sujet.
Il n'y a pas de budget dédié aux campagnes de sensibilisation, il n'y a pas d'abri et il n'y a pas de loi criminalisant spécifiquement les accusations de sorcellerie et les abus liés aux accusations.
Une loi dans ce sens devrait être étudiée au Parlement au cours de l'année 2025. Victor Cariou, Accra, RFI.
Et l'actualité africaine ce matin, ce sont aussi ces accusations de trahison formulées par Kinshasa contre l'ancien président Joseph Kabila. Tous les biens immobiliers de l'ancien président ont aussi été saisis et les activités de son parti. Le PPRD suspendu, nos dernières informations en RDC sur lesquelles nous reviendrons dans une vingtaine de minutes dans le prochain journal Afrique.
Et on y revient aussi sur ce sujet dans notre revue de presse africaine ce matin à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. On termine en musique, Martin, avec le 20e album d'une véritable légende.
Et au pays des éléphants, Alpha Blondie est un poids lourd. L'ivoirien de 72 ans est de retour en vieux sage du reggae mondial avec l'album Rise. Comme depuis un demi-siècle, il martèle ses convictions panafricaines et fait même chanter son dernier fils, âgé de 5 ans, un opus de transmission qu'a écouté Carmen une semaine.
Alpha Blondie n'a rien perdu de son énergie ni de son engagement. La star internationale de la musique afro-reggae lance depuis 44 ans des appels pour une Afrique plus juste, plus libre, plus grande. Épaulé par des artistes renommés comme Capleton, maître du dancehall jamaïcain, et Koffi Olomide, roi de la rumba congolaise, Alpha Blondie chante son désarroi, mais surtout son espoir pour le continent africain, en anglais, français et Dioula. Ayetaga, allez-vous-en avec vos problèmes ou la révolution, c'est la solution, déclare cet éternel optimiste en révolte-toi, Africa. Conscient des maux du monde, sans se poser en donneur de leçons, Alpha Blondie manie les mots avec sagesse, faisant même appel au philosophe grec Socrate dans son titre « Je ne sais rien » aux accents électro. Sans oublier la jeunesse, symbole d'un avenir plus radieux, incarné par son fils. Surnommé le Prince Bleu, celui-ci lance du haut de ses 5 ans l'hymne ensoleillé de la Cannes 2024. Ayoka, bonjour en langue bété.
Voilà, on dit donc Ayoka à tous les BT et à tout le monde, extrait de Rise, le 20e album d'Alpha Blondie.
Et on continue d'écouter un peu de musique ce matin. Rendez-vous pour notre choix musical du jour avec José Marigno juste avant 10h. Merci Martin Guez. 9h15 à Paris, RFI Matin, notre dernière heure ensemble déjà, et avec au programme du sport des reportages à Marseille, dans une demi-heure à l'écoute des diasporas africaines qui tentent de créer des ponts entre elles, et ça marche. Reportage également en Syrie, à suivre dans les prochaines minutes au cœur d'un centre de réhabilitation pour des jeunes issus de familles de djihadistes étrangers. Depuis la chute du califat, ils sont toujours dans l'attente d'une décision de leur pays les concernant, et ils ont confié leurs rêves et leurs espoirs à Mohamed Erami. Mais d'abord la presse. Frédéric Couteau à la une, excès sur la sellette.
Déjà mis en cause le mois dernier dans une faille de sécurité, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, est encore pointé du doigt dans une autre affaire. C'est ce que rapporte le New York Times. On savait déjà que Pete Hegseth avait partagé des plans d'attaque américains ultra secrets sur un groupe de discussion Signal, qui incluait par erreur le rédacteur en chef du site d'information The Atlantic. Et on apprend maintenant qu'il a partagé ces mêmes informations sensibles sur un autre groupe de discussion Signal, qui comprenait cette fois son épouse, son frère, ou encore son avocat. Aucune de ces personnes n'avait de raison apparente d'être informée des détails opérationnels d'une opération militaire en cours, relève le New York Times. Cette nouvelle affaire, poursuit le journal, ne manquera pas de soulever d'autres questions quant à son respect des protocoles de sécurité.
Et les langues se délirent, révèlent, pour sa part, le Wall Street Journal.
Certains fonctionnaires du ministère de la Défense récemment renvoyés ou qui ont démissionné affirment que le Pentagone est en plein désarroi et dans un état de chaos total. Certains appelant même à la démission de Pete Hegseth. En effet, précise le New York Post, l'ancien porte-parole en chef du Pentagone, John Ulliott, qui a démissionné la semaine dernière, a décrit les dernières semaines tumultueuses au sein du département de la Défense comme étant un enfer et a déclaré que le président Trump méritait un meilleur dirigeant à la tête de ce ministère. Du côté de l'opposition démocrate, pointe de son côté Le Monde, à Paris, on accuse l'administration Trump de faire preuve de trop de désinvolture et de risquer la vie d'Américains. Des détails ne cessent d'être révélé. Nous continuons à apprendre comment Pete Hegseth a mis des vies en danger, mais Trump est encore trop faible pour le renvoyer, a écrit Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat sur X, avant d'ajouter Pete Hegseth doit être limogé.
Autre affaire de fuite, cette fois révélée par le Washington Post.
Des documents sensibles, dont des plans de la Maison-Blanche, ont été partagés à tort avec des milliers de personnes, titre le journal. Des employés des services généraux du gouvernement ont en effet mis en ligne, par inadvertance, un dossier Google Drive contenant des informations potentiellement classifiées. En fait, la mise en ligne de ce dossier remonte à plusieurs années, précise le Washington Post, et la situation a perduré sans que personne ne s'en émeuve. Une négligence imputable à l'administration Trump, mais aussi donc à l'administration Biden.
À la une également, Emmanuel Macron à Mayotte ce lundi.
Mayotte, première étape d'une tournée de 5 jours dans l'océan Indien pour le président français, qui se rendra également à La Réunion, puis à Madagascar et Maurice. Mayotte, donc première étape, relève le Parisien. Le président revient sur l'archipel meurtri par le cyclone Chido en décembre. Il est attendu de pied ferme par les habitants et par les élus qui espèrent que sa visite permettra de faire avancer des chantiers qui patinent. Et Emmanuel Macron, poursuit le journal, risque de se heurter au même climat d'impatience et de colère qu'il y a 4 mois, car malgré la loi d'urgence en février, le rétablissement des réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunications, le quotidien ici demeure une lutte. Les gens sont fatigués, ils ont tout perdu, alerte Kadhafi Atoumani, directeur territorial de la Croix-Rouge à Mayotte. Ils ont tout perdu, leur maison, leur voiture, leurs vêtements. Ils attendent beaucoup du président. Ils veulent voir de l'action, que leur quotidien change.
Commentaire du Figaro. Exposé à toutes les calamités climatiques et sanitaires, Mayotte souffre de lourds retards économiques, de profondes tensions ethniques et désormais du narcotrafic.
Oui, 4 mois après le cyclone Chido qui a fait 40 morts, l'archipel ne pourra surmonter ses problèmes, poursuit le journal, que s'il parvient à stopper l'infernal flux migratoire venant des Comores et du continent africain. Trop timide, la réforme du droit du sol qui s'applique localement ne devrait pas changer grand-chose. Emmanuel Macron le reconnaîtra-t-il ? Il est à craindre, conclut le Figaro, que le 101e département français s'enfonce toujours plus dans la misère.
Frédéric Couteau pour cette revue de presse internationale. Merci à vous. C'est une question qui continue de faire largement débat dans le monde, un sujet de tension même. En tout cas, cette question, elle est encore loin d'être réglée plus de 5 ans après la chute du califat du groupe État islamique en Syrie. Cette question, c'est celle du retour des familles de djihadistes étrangers dans leur pays. De nombreuses femmes radicalisées et leurs enfants se trouvent toujours en Syrie sans pouvoir revenir dans leur pays d'origine, faute de cadre juridique. Dans le nord de la Syrie se trouve le camp d'Orkesh qui prend en charge certains d'entre eux. Un centre de réhabilitation créé par l'administration autonome kurde il y a 3 ans et qui peut accueillir 150 personnes. Il propose des programmes destinés à changer la mentalité de ces jeunes étrangers qui ont grandi au sein de familles aux idées religieuses extrémistes. Notre correspondant en Syrie, Mohamed Erami, a pu s'y rendre. Reportage.
145 jeunes de 13 nationalités étrangères vivent dans le camp d'Orkesh, confinés entre une petite cour où ils se retrouvent pour pratiquer des sports simples, des salles de classe et leur chambre collective. Dans l'une de ces chambres, le français Ilyes, 22 ans, s'adonne à sa passion pour le dessin, une opportunité qui lui est offerte par sa présence dans le camp. Une activité qui lui permet aussi de s'évader en griffonnant, dans son cahier, ses rêves d'une vie plus normale. Après 3 ans dans le centre de déradicalisation, séparé de sa mère et de ses 2 grands frères, eux incarcérés au camp de Roj, l'espoir d'un retour en France s'éloigne de plus en plus.
Moi, jusqu'à maintenant, je sais pas, pour moi, le rapatriement, c'est juste un rêve, en fait. C'est à chaque fois, quand je réfléchis à quand je vais être libre, quand je vais être en France, pour moi, juste, je m'imagine. Et c'est une imagination, ça va pas devenir réel. Au début, quand je suis venu ici, je pensais vraiment que j'allais y aller. J'ai attendu. Je vois le temps, il passe, et non, en fait. Jusqu'à maintenant, je suis là.
Hamza, lui, est arrivé en Syrie à l'âge de 3 ans avec sa mère, bien avant la proclamation de Daesh. Le natif de Toulouse raconte comment en 2018, il a vu celle qui l'a élevé, épouser un combattant de l'État islamique avant de mourir dans des combats. Le jeune homme, orphelin de mère, tente alors, à l'âge de 16 ans, d'aller en France par ses propres moyens en rejoignant l'ambassade de France de Turquie avant d'être grièvement blessé par une mine et d'être arrêté par les forces kurdes. Depuis, il est au centre de réhabilitation, une prison à ses yeux.
C'est un centre, entre guillemets. Mais nous, qu'on est dedans, on sait qu'est-ce qui se passe. Je vais pas te mentir. Tu vois, c'est pas un centre. Quel centre, s'il te plaît, il ferme la porte à 11h. Quel centre que tu manges des trucs bidons. Tu sais, tout ça, faut que toi t'achètes pour que tu peux manger. Tu vois, quel centre, s'il te plaît. C'est un centre, hein. Moi, je suis en série, ou pas qu'en série. Tant que je suis pas dans mon pays, tu vois, et je veux rien.
L'administration du centre d'Orkesh, qui a choisi de rester anonyme, considère les jeunes et les enfants présents comme des victimes, n'ayant commis aucune faute, si ce n'est d'avoir été emmenés par leurs parents d'une vie sécurisée vers un environnement marqué par l'extrémisme.
À l'arrivée des enfants, nous rencontrons de grosses difficultés pour interagir avec eux. Mais avec le temps, nos liens s'améliorent et il y a une réponse positive au programme de réadaptation. Cependant, la difficulté principale réside dans la question du retour dans leur pays d'origine.
Malgré tout ce travail, l'administration du camp espère qu'un jour les pays d'origine des enfants accepteront de les rapatrier après leur passage par ces programmes de réhabilitation.
Mohamed Erami, Orkesh, RFI.
Reportage à réécouter sur notre site www.rfi.fr. Au Royaume-Uni, comme ailleurs, le mouvement masculiniste prend de l'ampleur. Dans les écoles, notamment, les enseignants s'inquiètent et pointent la responsabilité des réseaux sociaux dans ce phénomène et l'influence de figures controversées comme Andrew Tate et Donald Trump. On en parle ce matin à Londres avec notre correspondante Sidonie Gaucher. Bonjour Sidonie.
Bonjour.
Alors malgré une prise de conscience, Sidonie, la situation n'a pas l'air de s'arranger dans les écoles du Royaume-Uni.
Eh bien non, ça ne s'arrange pas du tout. Il y a d'ailleurs une nouvelle enquête menée par un syndicat enseignant qui montre une hausse des comportements toxiques, en particulier de la part des garçons et orientés vers les femmes. Ils aboient sur les enseignantes, leur bloquent le passage et passent une journée sans une remarque sexiste ou raciste. Certains élèves vont même jusqu'à refuser d'adresser la parole à leur professeur si c'est une femme.
Et alors, que disent les enseignants sur les causes profondes de ce phénomène ?
Eh bien, tous les regards se tournent vers les réseaux sociaux. 2/3 des personnes interrogées estiment que c'est la cause principale de ces comportements. Vidéos violentes, pornographie, fake news, discours extrêmes, un cocktail explosif qui affecte les jeunes dès le primaire. En fait, ces propos racistes, sexistes, homophobes sont tellement normalisés que les élèves ne songent même pas aux conséquences. Ce qui inquiète aussi, c'est le jeune âge de ces élèves qui se comportent comme ça dès le primaire, autour de 10 ans ou même moins. Ce sont donc les élèves, mais aussi les parents d'élèves qui refusent d'accepter les règles de l'école ou de reconnaître leurs responsabilités.
Alors ça, c'est pour le constat. Sidonie, qu'est-ce qui est mis en place pour y remédier ? Est-ce qu'on voit des actions concrètes ?
Il y a quelques mesures, mais on est quand même bien loin du compte. Le gouvernement évoque la loi sur la sécurité en ligne. Il y a des ressources pédagogiques pour aider les enseignants à faire face aux difficultés, mais tout ça, ça se passe en interne. Le Parti travailliste souhaite faire visionner la mini-série Adolescence sur Netflix, qui est décrite comme un drame réaliste qui dénonce une véritable crise sociale au Royaume-Uni. Mais pour le syndicat, il faudrait une véritable stratégie nationale qui réponde vraiment à l'urgence du problème. Interdire les téléphones en classe, ça ne suffit pas puisque l'exposition se fait en dehors de l'école. Pour eux, il faudrait une meilleure régulation des contenus en ligne et surtout une plus grande sensibilisation et implication du côté des parents.
Sidonie Gauchet en ligne de Londres avec nous.
RFI Matin.
Et tout de suite, c'est notre question d'environnement. Alors que Donald Trump, climato-sceptique convaincu, est de retour au pouvoir aux États-Unis depuis maintenant 3 mois et 1 jour, on s'intéresse ce matin aux ennemis du climat et de l'environnement. Florent Guignard, qui sont-ils, ces visages du climato-scepticisme ?
Premier visage d'entre tous, c'est un visage orange, vous l'avez nommé Andréane, Donald Trump, négationniste de la crise climatique.
It'll start getting cooler.
Ça finira par se refroidir, vous verrez. Je pense pas que la science le
Et depuis 3 mois et 1 jour, c'est donc une litanie de coups portés contre l'environnement et les politiques climatiques. Dernière en date, la reprise de la pêche dans un sanctuaire de l'océan Pacifique.
Et Donald Trump, Florent, a fait des petits.
Au sud des États-Unis, sur le continent sud-américain, vous allez tout de suite deviner de qui on parle. Javier Milei, le président argentin, et sa tronçonneuse. Vous pouvez d'ailleurs nous rappeler, Andréane, l'une de ses déclarations choc.
Alors il dit, tous ces politiques qui accusent l'homme d'être responsable du changement climatique sont bidons. C'est un mensonge des socialistes.
Dans l'international climato-sceptique, Andréane, il y a aussi évidemment Vladimir Poutine. Sous son règne, depuis 2000, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 23%. L'économie russe est fossilisé. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi surfe sur l'ambiguïté, lui qui avait boycotté la COP29, le dernier sommet mondial pour le climat. Narendra Modi s'appuie pour développer l'économie indienne sur le charbon et sur le solaire. Et puis on peut citer aussi en Europe le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Alors le point commun de tous ces ennemis du climat, eh bien pas très démocrate, pas très libéraux, nationaliste et populiste. Écoutez ce qu'en dit Albin Wagener, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille.
On disait souvent, il y a quelques temps, oh là là, l'écologie c'est terrible, ça donnera des régimes qui seront des régimes autoritaires verts, les fameux Khmer verts. Or, ce qu'on voit, c'est totalement l'inverse. Ce qui est en train de se passer, c'est des régimes réactionnaires. Quand l'écologie va toucher à la manière dont on va se déplacer, la manière dont on va s'alimenter, se loger, etc., ça donne l'impression que finalement, l'écologie attaque tous les pans de notre vie. De ce fait-là, on a effectivement une réaction, une volonté de ne pas se laisser emporter par ça. Et c'est ce qui fait que les discours climato-dénialistes, ou sceptiques en tout cas, ont le vent en poupe en ce moment. Je pense que c'est vraiment une peur de perdre un monde qui est en train de s'éteindre.
Et alors Florent, quel est le poids concrètement de cette internationale climato-sceptique ?
D'abord, il y a le poids tout simplement, il est immense, des États-Unis, le poids aussi des menaces de Donald Trump. On l'a encore vu il y a quelques jours, lors de la mise en place d'une taxe carbone pour les navires de commerce. Menace des États-Unis, alors même qu'ils boycottaient la réunion. Alors tous ces dirigeants, on va le voir, n'ont pas le même intérêt, mais de fait, ils forment une alliance objective, Albin Wagener.
C'est tout le programme de l'international réactionnaire, hein, c'est de sortir graduellement des coopérations internationales, c'est du chacun pour soi, ce qui maintenant fait patiner des organisations comme la COP par exemple, et à partir de là, ben, finalement, effectivement, ça va peser de manière assez dramatique, puisque le principe du multilatéralisme, c'est que les grands États essaient de protéger les petits. Or là, c'est fini, c'est vraiment du chacun pour soi.
Et est-ce qu'en France, on a des dirigeants climato-sceptiques ?
En tout cas, on a eu un président climato-sceptique.
Je voudrais d'ailleurs dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Ça commence à bien faire.
Voilà, Nicolas Sarkozy qui pense que le problème du climat, c'est la démographie en Afrique. Et aujourd'hui, en France comme ailleurs, les normes environnementales sont remises en cause sous la pression populiste. Le climat n'est pas très favorable au climat.
Merci Florent Guignard, c'était la question d'environnement.
L'exposition Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac explore l'une des missions ethnographiques les plus emblématiques et revisite les conditions de collecte et les récits de cette traversée de 14 pays africains. Ces contre-enquêtes interrogent les enjeux mémoriels et scientifiques. Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête à découvrir jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Plus d'informations sur quaibranly.fr en partenariat avec France Média Monde.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
30 ans après les guerres des années 90, la question des disparus hante encore les Balkans. À Đakovar, dans l'ouest du Kosovo, la maison de Ferdonier est devenue un lieu de mémoire. Depuis le jour où son mari et ses quatre fils ont été enlevés, il y a 26 ans, cette femme vit dans un musée.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU, sur RFI.